Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes à table, et si vous aussi, bienvenue dans les débats d'Europe Soir. À table, Amine El Khatmi, président du Printemps Républicain, avec Razi Hamadi, ancien député PS, directeur général de New Stank Cities, avec Othmane Nasrou, vice-président de Libre et deuxième vice-président de la région Île-de-France. Et nous accueillons le député MoDem des Yvelines, Bruno Millienne.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Christiane Taubira était l'invité hier matin de la matinale de France Inter. Petits éléments de contexte, la question d'un auditeur, pourquoi ne se présente-t-elle pas à la présidentielle, et la présentatrice de Renchérir sur le sujet Éric Zemmour. Voilà ce que ça donne dans la voix de l'ancienne ministre.
C'est un pays où on humilie, on a humilié un gamin il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est auto-saisie. C'est un pays où on humilie tranquillement, on prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays, alors que nous sommes tous en danger, alors que nous savons que les dangers climatiques ne peuvent pas attendre, que nous savons que l'injustice sociale, ça produit de la colère, de la rage. On sait tout cela. On ne peut pas s'amuser et simplement s'asseoir et dire « je suis candidat ». Et je ne critique pas celles et ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m'amuser et laisser les Zemmour et d'autres. Après Zemmour, il y en aura d'autres. Parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort matériel, un confort social, un confort moral, entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société et la présence des autres, on ne peut pas se permettre de jouer.
Voilà donc pour cette sortie hier matin de l'ancienne ministre Christiane Taubira. Razi Hamadi, vous êtes d'accord? La France humilie?
Elle n'a pas dit la France humilie.
Si, elle l'a dit avant, elle n'est pas dans l'extrait.
Elle n'a pas dit la France humilie, elle a dit on est dans un pays où on humilie. Mmh. Et aujourd'hui,
sa colère,
pour reprendre une expression devenue scène célèbre, c'est celle-là, c'est une saine colère. Moi, je pense qu'il y a besoin, à un moment donné, d'entendre des voix qui expriment une colère.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ?
Je suis d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent humiliés dans ce pays. Mmh. En effet, lorsqu'on vous explique normalement, sans aucun problème, qu'on va interdire à des gens potentiellement, parce que c'est son programme politique et qu'il a invité de partout, tout le temps, je parle d'Éric Zemmour, d'appeler leurs enfants, par exemple, Mohamed, et si lui, demain, il est candidat, on interdira ça, et qu'il n'y a pas de réaction, à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce pays, un dixième de ça aurait provoqué de grandes manifestations et de grandes mobilisations. Et qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. Et donc ça doit aussi un peu nous inquiéter.
Appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France, dit Éric Zemmour.
D'accord. Et donc mes parents, quand ils m'ont appelé Razi, ils avaient prévu de coloniser le département du Var et la ville de Toulon. Mais il faut vraiment être... C'est du cynisme, en fait, parce qu'il n'est pas... Voilà, c'est du cynisme.
Oui.
Typiquement, c'est du cynisme.
Othmane Nasrou, est-ce que, sur l'humiliation, vous êtes d'accord?
Moi, je trouve qu'on n'est pas condamné à choisir entre Christiane Taubira et Éric Zemmour. Parce que ce que j'ai entendu là à l'instant dans la bouche de Christiane Taubira, c'est aussi un discours de haine. De haine envers un pays, de dire que la France humilie sa jeunesse. Je trouve que c'est d'une violence sans nom. Je trouve que ça n'est pas conforme à la réalité. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent se sentir laissés de côté.
C'est pas conforme à la réalité. Ça n'est pas vrai, c'est ce que vous dites.
Et surtout, c'est un discours qui incite, chez une partie de notre jeunesse, une détestation du pays dans lequel on vit. Je trouve que c'est anti-républicain, que ce n'est pas digne d'une femme qui a été à un moment candidate à l'élection présidentielle, et je pense que c'est devenu le fond de commerce partie de la gauche qui est dans un discours finalement très identitaire et qui, honnêtement, je n'ai pas entendu beaucoup de solutions, j'ai entendu un discours contre le pays lui-même, et ça, je trouve que c'est pas entendable, et moi, je ne laisserai jamais quelqu'un dire... Vous savez, moi, il y a 10 ans, je n'étais pas français. Je suis aujourd'hui vice-président de la première région d'Europe. Je ne peux pas laisser Christiane Taubira laisser penser que ce pays est structurellement raciste, xénophobe, etc. Je trouve que
vous avez dit, on ne vous a pas entendu, Razi Hamadi.
Mais de la même manière, j'ai envie de dire à Éric Zemmour qu'on peut s'appeler Othmane ou autre et se sentir pleinement français et aimer ce pays d'un amour fou. Oui. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de Madame Taubira, qui, elle, honnêtement, nous apporte rien de très constructif.
Excluons l'exemple de Zemmour. Prenons les deux exemples qu'il y a au début, c'est-à-dire effectivement l'histoire de cette mère de famille qui s'est vue sanctionnée. Ben justement, je vais vous donner la parole. Cette mère de famille qui s'est vue sanctionnée, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne paye plus la cantine, paf, son enfant est privé de repas. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on se souvient de ces événements en marge de manifestation lycéenne à Mantes-la-Jolie en 2018. Ouais. Et effectivement, les jeunes ont été... Et il y a eu d'ailleurs une procédure hein, derrière contre la police. Les jeunes ont été parqués à genoux pour maintenir l'ordre, oui. C'est ce qui avait été dit à l'époque. Bruno Millienne, vous vouliez répondre sur le premier exemple, en l'occurrence la cantine.
Christiane Taubira ferait bien mieux de défendre des idées de gauche que de prendre ces exemples-là en les rendant outranciers en fait, dans son expression. Alors, je condamne totalement...
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'en sert ?
Oui, elle s'en sert politiquement. C'est une vraie manœuvre politicienne. J'allais dire à deux balles, mais c'est pas loin de ça.
Vous l'avez dit.
Voilà. Elle s'en sert alors qu'il faut regarder la réalité des faits. Mais on peut ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Et le premier, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé sur l'histoire du môme qui est privé de cantine. On le fait raccompagner par un policier. D'abord, c'est un policier municipal qui est là tous les jours à la sortie du lycée. Et c'est en vérité la personne que le môme connaît le mieux dans l'environnement de l'école. Bon, on aurait pris quelqu'un ailleurs qu'il ne connaissait pas, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour le môme. Après, c'est compliqué, effectivement, de renvoyer un gamin chez lui simplement parce que ses parents n'ont pas payé la cantine. Ça, c'est pas bien. On est d'accord. Mais profiter de ça pour dire qu'on humilie volontairement, il n'y a pas de volonté d'humilier en l'occurrence, c'est pas bien. Ça faisait 2 ans, je crois, que la cantine n'était pas payée. Il y a eu des rappels, ils ne se sont pas entendus avec le CCAS. Bon, bref, il y a des problématiques qui peuvent amener à des situations qu'on regrette après. Effectivement, moi, je regrette que ça se soit passé, ça ne donne pas une bonne image. Quant à Mantes-la-Jolie, c'est pas très loin de chez moi.
Oui,
c'est pas sur
la
circonscription. C'est la circonscription qui jouxte la mienne. Évidemment que l'image, elle est terrible, de voir des gamins, vous avez dit parqués,
mis à genoux un périmètre.
Dans un périmètre, voilà, mis à genoux dans un périmètre.
Pour être totalement précis.
J'aurais aimé qu'on regarde ces images-là, on montre aussi les images de violence qu'il y avait eu avant, qui ne sont pas normales non plus. On ne peut pas, quand on veut donner une vérité, on ne peut pas montrer que la moitié de la vérité, c'est ce que je veux dire. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?
Rappelez-nous en deux mots ce qui s'était passé avant.
Ah bah, il y avait des manifestations ultra-violentes, il y a eu une voiture qui a été brûlée,
des cocktails
Molotov, ils ont quand même tapé sur la police. Et à un moment donné, l'autorité policière a jugé qu'elle n'avait pas d'autre moyen pour tout arrêter que de faire ça. On peut ne pas être d'accord avec. Moi, je vous cite simplement les faits.
On peut aussi...
Mais on ne peut pas simplement dire on a parqué des mômes et ils n'ont rien fait. C'est pas vrai.
On peut aussi ne pas être d'accord avec Christiane Taubira, d'accord ? Mais ne pas ignorer tout de même qu'il se passe quelque chose dans notre pays. On le dit sur tout un tas de sujets. On peut aussi le dire sur celui-ci, où il y a une montée des haines.
Ah, mais ça,
elles viennent de partout, du tous contre tous. Ce que Deleuze décrivait à travers la citation que je cite, évidemment, qui tient de lui, la majorité, c'est personne, la minorité, c'est tout le monde, et les uns contre tous, déchaînés sans aucune limite de mesure. Bien. À partir de là, vous avez des choses qui, dans le débat public, semblent totalement débridées. Moi, je ne me sens pas humilié parce que j'ai un bagage moral, intellectuel, républicain, qui fait que je comprends un petit peu ce qui se passe. Mais vous avez toute une partie aujourd'hui de la population dans ce pays qui peut se sentir matin, midi et soir, en allumant la télé, en écoutant la radio, dans la bouche d'un certain nombre d'éditorialistes, de responsables politiques, peuvent se sentir humiliés. La République n'humilie pas, mais la République doit permettre de combattre
les humiliants dans ce pays. Les commentaires sur la République humilient. Je suis, mais alors, vous ne pouvez même pas imaginer combien je suis 100% d'accord avec vous. Hier, on a fait une réunion publique sur le numérique et la démocratie. Et moi, je prône un langage de nuance et de modération. C'est très facile d'être dans l'anathème. Il n'y a rien de plus simple. C'est comme si vous étiez sur une ligne TGV qui va tout droit, vous êtes à 300 km/h et vous balancez des punchlines tout le temps.
C'est facile.
Ça reste, ça imprime, c'est facile. D'un côté comme de l'autre. Quels que soient les extrêmes, ils peuvent le faire, ça reste dans la tête des gens. C'est beaucoup plus compliqué. En responsabilité, j'ai apprécié aussi l'intervention d'Othmane, c'est pour ça que je le dis, c'est beaucoup plus compliqué en responsabilité d'avoir un langage nuancé, pondéré, modérateur, être sur une ligne de crête, reconnaître des erreurs, reconnaître des succès. Tout n'est pas à prendre, à jeter à la poubelle. C'est pas vrai. La vie, elle n'existe pas en noir et blanc. Faut arrêter ça. Et je trouve que dans les propos de Madame Taubira, qui est pourtant quelqu'un que je respecte parce qu'elle a fait beaucoup de choses, elle conduit aussi à alimenter cette haine dans le pays. C'est ce que disait Othman Nasrou. Il a raison. Ça conduit à alimenter la haine. Nous, les responsables politiques, on a une responsabilité majeure. Il faut qu'on fasse attention dans ce qu'on dit à ne pas alimenter
en
les
haines. En quoi
elle
alimente la... Non, là, on a un petit désaccord. Non, mais en quoi, dans ce qu'elle dit,
Attendez, comme il y a un désaccord, on va marquer une page de publicité et on revient juste après. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Avec à table le député modem des Yvelines, Bruno Billienne, Othman Nasrou, vice-président libre et deuxième vice-président de la région Île-de-France, avec Razia Madi, ancien député PS, directeur général de New Stank Cities, et le président du Printemps républicain, Amine El Khatmi, qui n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent sur cette sortie de Christiane Taubira.
Non, parce que j'étais d'accord avec les propos brillants de... qui ont été prononcés. En plus, je rigole, mais c'est vrai. Qu'il y ait des humiliés dans le pays, c'est un fait. Enfin, il faut être complètement déconnecté de la réalité pour dire qu'il n'y a pas des humiliés. Il y a des gens qui se sentent humiliés, voilà, parce que en raison de ce qu'ils sont, en raison parfois effectivement de leur foi, parce que ils entendent tous les jours des propos qui parfois peuvent les stigmatiser. Il y a des gens qui se sentent parce que leur situation sociale, parce qu'ils travaillent dur et qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement des fruits de leur travail et qu'ils n'arrivent pas à offrir une vie digne à leurs enfants, se sentent humiliés. Après, non, la France n'humilie pas. Et effectivement, c'est sans doute là, moi, il faudrait que je réécoute le propos, parce que c'est sans doute là qu'est le fond, en réalité.
On va réécouter les tout premiers mots de cette intervention. C'était hier matin chez nos confrères de France Inter.
C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est auto-saisie. Voilà. C'est un pays où on humilie.
C'est un pays où l'on humilie.
Christiane Taubira est une femme suffisamment lettrée. Et je pense que c'est une des responsables politiques qui a la meilleure maîtrise de la langue française. Une érudition, une culture assez incroyable. Mmh. Et donc, elle sait suffisamment choisir des mots précis pour ne pas voir là justement l'ambiguïté qu'elle entretient entre un pays où il y a des humiliés, ce qui est une évidence, et un pays qui humilierait. Parce que quand on dit un pays, c'est quoi? C'est le gouvernement, c'est...
Le sujet dans la phrase, c'est on.
Non mais on,
le sujet,
mais là,
c'est
justement,
on est bavard,
c'est trop vague le on. Non, la France en tant que, il y a pas d'humiliation structurelle, si vous voulez, il y a pas de, comme pour moi, il y a pas de racisme structurel, comme il y a pas de, donc elle doit faire attention à une heure de grande écoute, quelqu'un qui utilise. Et par ailleurs, sur l'histoire de effectivement de ce gamin, bon, il y a un principe simple, c'est qu'on fait manger des enfants, quoi qu'il arrive.
Oui, on est bien d'accord.
Quand on a vu les reportages et quand on a vu les réactions sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que le GIGN avait débarqué dans une école, avait pris le gamin et
Bruno Millienne a rappelé que c'était un policier qui était là tous les jours à la sortie de l'école et qui, sans doute, c'était la personne que connaissait mieux cet enfant.
Dans un village de 2200 habitants, donc on est dans un village, et c'est un policier qui était en charge de la sécurisation des abords de l'école et notamment du passage piéton. Donc c'est le policier que les enfants connaissaient. Bon,
C'est pas le GIGN.
Othman Nasrou, sur cet épisode justement de la privation de cantine, quelle est votre position?
Mais évidemment, c'est regrettable, même si ça a été expliqué par Bruno Millienne, il y a toute une histoire autour. Mais qu'on prenne ce fait-là, cet exemple, pour dire c'est un pays qui humilie. On est dans un pays qui humilie structurellement, c'est-à-dire qu'on essentialise, c'est-à-dire que fondamentalement notre pays, la France, c'est un pays qui humilie. C'est une violence dans le propos, honnêtement, inacceptable dans la bouche d'un responsable politique, parce que, et ça a été dit à l'instant, il y a des gens qui entendent. Et moi, franchement, tous ces élus d'une partie de la gauche qui passent leur temps à expliquer « la France ne vous aime pas, nous on vous aime, votez pour nous », c'est criminel et ça nourrit bien une détestation de notre pays, et ça nourrit aussi un manque de cohésion sociale et de cohésion nationale qui est terrible.
On peut pas dire sur ce plateau à la fois il faut être pondéré, attention les fake news, donner une valeur aux mots, à la syntaxe, etc. et confondre la France qui humilie et la France où on humilie. C'est pas
elle
du tout la même chose.
C'est un pays qui humilie.
Non, non.
C'est au début.
Non, moi je l'ai pas
la
entendu.
La France est un pays qui humilie.
Moi j'ai pas entendu.
Le sujet c'est on. Le sujet c'est on et c'est ce qu'on a dit avec Amine
El-Kadri. Comment c'est un pays qui humilie ?
Écoutez, moi je vous le dis, c'est pas possible. Franchement, si on dit la France est un pays qui humilie, je suis en total désaccord.
On est d'accord.
Je crois pas que c'est ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est un pays où l'on humilie. Est-ce qu'il y a des humiliations ? Alors ça, maintenant pour revenir au terme humiliation, parce que le terme n'est pas choisi de façon anodine. On est rentré dans nos sociétés, c'est beaucoup analysé par beaucoup, hein. C'est pas simplement de l'analyse de comptoir. Dans le Monde en 2040, qui est le rapport que rend la CIA à tout nouveau président des États-Unis pour lui dire voilà, qu'est-ce qui se passe, quels sont les grands vecteurs de transition et transformation, il y a l'émergence des ressentiments. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où, du fait qu'il n'y ait plus de carcan, qu'il n'y ait plus de cadre collectif, le syndical, tout ça a été très bien dit par certains, y compris au territoire, avec l'archipélisation, etc. Il n'en demeure pas moins que tout le monde a un ressenti. J'ai un ressenti vis-à-vis du vaccin. J'ai un ressenti vis-à-vis du maire. J'ai un ressenti
Vis-à-vis des médecins qui étaient les seuls protégés jusqu'à maintenant.
C'est ça. Il y a toujours un ressenti vis-à-vis du voisin. Donc, il y a une résonance avec ça. Et quelque part, on parle à ces gens-là lorsqu'on emploie le terme d'humiliation. L'extrême droite utilise aussi beaucoup
ce
terme-là.
C'est pour ça qu'on dit qu'on se voit, c'est une faute politique.
Je vous rappelle, on nous humilie, on vous spolie. Citation célèbre, là encore. Mais il y a deux façons. Soit on les ignore, ces humiliations, soit on dit qu'elles existent et qu'il faut les réduire et essayer de comprendre pourquoi elles sont ressenties à ce point.
Oui.
On va remarquer une pause sur Europe 1 et dans un instant, on va se rendre à Toulon pour voir où en est Éric Zemmour de cette... on peut appeler ça un meeting, c'est un meeting, à tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneau.
Il y a de l'ambiance dans le studio avec le député MoDem des Yvelines, Bruno Millienne, Othmane Nasrou, vice-président de Libre, deuxième vice-président de la région Île-de-France, Razi Hamadi, directeur général de New Stank Cities et Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain. Éric Zemmour est donc en meeting à Toulon. Éric Zemmour, toujours pas candidat, il veut choisir son moment. Il peut faire durer l'ambiguïté d'une candidature tant que c'est dans son intérêt, c'est ce qu'il dit. Bonsoir Stéphane Burgat.
Bonsoir.
Vous êtes au meeting d'Éric Zemmour à Toulon. Que se passe-t-il ? Quelle forme ça prend ? Est-ce qu'il s'est dit quelque chose de particulier ?
Non, pour l'instant, non. On a pris beaucoup de retard ici. Il vient à peine de monter sur scène, Éric Zemmour. Tout le monde se défend, bien sûr, du thème de meeting. Il est interviewé par l'organisateur du festival des entretiens de l'été, festival littéraire. Il est en train de parler de ses souvenirs toulonnais, son attachement avec le département du Var. L'organisateur du festival qui nous a précisé en avant-propos qu'il accueillait un écrivain et pas un candidat potentiel à la présidentielle. Du côté de l'équipe, communication d'Éric Zemmour, on est sur le même ton, on nous dit que le polémiste est là pour rencontrer des lecteurs et non des électeurs, même si on s'en rencontre, puisqu'on a parlé avec un petit peu ce public. On rencontre un petit peu des personnes qui sont intéressées tout simplement par le personnage, qui viennent là en tant que curieux, et puis ceux qui aimeraient carrément voir Éric Zemmour se prononcer, se lancer dans la course à la présidentielle, et pourquoi pas dès ce soir.
Vous leur avez parlé, on peut parler de militants d'ailleurs, Stéphane ? Comment est-ce que vous les apercevez, justement, ces gens qui sont venus ? C'est juste comme ça, des gens qui viennent pour voir, comme au poker, j'allais dire ?
Un petit peu des deux. Il y a des amoureux de la politique, du paysage politique, attachés au personnage Éric Zemmour, de par ses livres, de par ses interventions télévisées, qui aimeraient voir le personnage, comme ils disent, en vrai. Et puis, il y a ceux, effectivement, qui sont convaincus, des électeurs plutôt portés à la droite, de la droite, qui aimeraient vraiment le voir se prononcer. Il va d'ailleurs être lancé sur la question. On nous l'a dit très, très clairement, il va y avoir une demi-heure d'échange avec le public et on va le lancer là-dessus très clairement. Est-ce qu'ils vont compter se positionner dès ce soir ou pourquoi pas dès demain ? On sait qu'il sera aussi à Nice pour poursuivre cette campagne promotionnelle assez ambiguë.
Il y a des jeunes de la génération Z, j'imagine ?
Oui, exactement. C'est assez mélangé. On a un petit peu de tous les âges, même s'il y a pas mal de quinquins qui sont là dans le public. Mais il y a beaucoup de jeunes, notamment des étudiants en sciences politiques, qui sont curieux de ce qui est en train de se passer autour d'Éric Zemmour.
Merci beaucoup, mon cher Stéphane Burgat, en direct de ce meeting d'Éric Zemmour qui vient tout juste de commencer. C'est habituel, les meetings sont toujours en retard, que ce soit à droite, à gauche, au centre. Qu'est-ce qu'on peut penser ? Alors, on n'a pas beaucoup de croustillants pour l'instant, parce qu'on n'a pas vraiment de punchline, on n'a pas de grandes phrases qui se sont prononcées jusqu'à présent.
On a été servi dans les jours précédents quand même. Enfin, on ne sait pas ce qui va sortir là comme horreur.
mais entre Fatima qui doit s'appeler Corinne, je suis philosophiquement pour la peine de mort, toutes les outrances contenues dans son livre, on est sur une stratégie qui est bien connue, c'est-à-dire aller toujours plus loin et faire en sorte que une fois l'horreur sortie, tout le monde évidemment s'en indigne et ça a marché puisque
c'est quoi la stratégie selon vous ?
Mais c'est ça, c'est la stratégie, c'est que tout le monde ne parle plus que de ce qu'il a décidé d'imposer comme agenda dans le débat politique. Donc un jour, il décide qu'on parle des prénoms. Alors on en parle pendant 48 heures dans tous les médias et nous-mêmes participons de cela puisque ça fait partie de l'actualité et qu'on est là pour la commenter. Et
puis vous êtes en train de dire qu'on ne devrait pas en parler peut-être.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est combien de temps ça va durer ? Enfin, si les candidats, ça va continuer comme ça en janvier, en février, puis qu'est-ce qu'il va remettre en cause ? Après, ça va être sur des questions d'immigration. Puis ça va. Enfin, c'est toujours aller toujours plus loin dans l'excès, dans l'outrance. Obliger les autres à se positionner autour de lui. Je pense qu'à un moment, on a aussi à se questionner.
Bruno Millienne, comment est-ce que vous voyez les choses, vous ?
Eh ben, Abdelkader Zemmour, comme l'appelle Libération... Charlie Hebdo, pardon. Est un odieux personnage de la pire espèce qu'il faut combattre pied à pied. Il faut lire ses écrits, dénoncer les mensonges éhontés qu'il y a dedans. Tous les chiffres qu'il met dans ses livres sont faux et archi-faux. C'est un manipulateur malade, mais il va falloir si jamais, évidemment, moi je ne crois pas qu'il ira jusqu'au bout, mais si jamais il est candidat, il faudra le traiter exactement comme n'importe quel autre candidat et se battre contre lui, projet contre projet.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, disait qu'il faut le marginaliser et on ne le fait pas ?
Je ne pense pas. Si vous regardez le Rassemblement National, on a essayé de les marginaliser, on les a traités comme ça un petit peu par l'anathème, etc. Et au bout du compte, Marine Le Pen en est à sa troisième candidature à la présidentielle à la présidentielle de la République.
Grazia Madi.
Oui, mais en fait, tout ça est un peu lié. Marine Le Pen, je rappelle que c'est quand même la huitième fois qu'un Le Pen est candidat en 48
Absolument.
Ans. Donc, quand même, les gens, Netflix, ils leur proposent 4 nouveaux films tous les jours, et nous, on se tape les Le Pen, et voilà, 8e fois en 48 ans.
Bon, oui, mais ça a changé, il y a le père et la fille.
Donc, oui, mais bon, ça reste Le Pen. Hein. Bon, c'est vrai que de génération en génération, on a le sentiment qu'il s'améliore. J'ai l'impression, moi.
Comment
en tout
ça
cas, du point de vue photogénique.
Ça, c'est une réflexion qui vous appartient, Razia Mehdi.
Donc,
ne relèverai pas.
Je suis désolé, mais si vous me posez la question, je vous réponds. Donc, à partir de là, vous avez quelqu'un qui débarque et qui arrive et qui envoie une punchline tous les jours, qui envoie quelque chose de dingue. Il a un livre à vendre. Alors, en plus, moi, je voudrais bien qu'on parle des livres, parce que vous parlez des chiffres, c'est très juste. C'est vrai que les chiffres sont faux. Mais. Je sais pas, moi je lis des livres de gens avec lesquels je suis pas d'accord. Philippe de Villiers, par exemple. Mais Philippe de Villiers, mais c'est superbement écrit.
Ah, c'est très bien
moi,
écrit.
Moi j'adore
oui.
les bouquins, ce ne serait-ce que pour l'amour du français de Philippe de Villiers. Je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Et des fois j'accélère sur certaines pages parce que je me dis, bon, ça y est, on a passé les deux tiers, là c'est le moment où je suis plus d'accord. Mais lui, c'est mal écrit. Zemmour, c'est mal écrit, le bouquin est mal écrit. C'est pas du bon français. D'ailleurs, vous le voyez dans les débats.
Conclusion.
La conclusion, c'est qu'il vend son bouquin. Moi, je ne pense pas qu'il aura les 500 signatures. C'est-à-dire 500 signatures, il faut les retrouver. Il faut trouver 500 maires qui prennent le risque d'aller
d'assumer
se mettre derrière et d'assumer
de
se mettre derrière quelqu'un
oui,
qui raconte
public.
Ça.
Oui.
Je pense qu'il le sait éperdument. Qu'ensuite, il va continuer ensuite, parce que Le Pen lui a montré comment il fallait faire. C'est-à-dire qu'ensuite, il va dire « Je suis candidat, mais je n'ai pas les 500 signatures. Je voudrais être candidat, mais vous voyez bien que le système est contre
m'empêche,
moi.
M'empêche. Ouais.
Vous voyez bien que le système
la
m'empêche. J'ai de nombreux maires qui veulent me soutenir, mais ils sont cadenassés. On va leur supprimer des subventions s'ils me soutiennent. Voilà comment se passent les choses. En plus, il va lui prendre son fonds de commerce, parce qu'elle, elle arrivait à faire quand même...
Bah oui.
Elle nous faisait 5-6 semaines sur « Je n'ai pas les signatures. »
Vous avez quand même remarqué aujourd'hui, Sébastien Chenu a dit qu'il fallait qu'il donne un coup de main à Marine Le Pen.
Je pense pas que ce soit dans ses intentions.
Non, mais je manque le Rassemblement National soit paniqué à l'idée d'une candidature Zemmour. C'est leur problème et surtout ça en dit long sur effectivement
sur
la vacuité du Rassemblement National, ce qu'il en reste, leur incapacité à proposer quoi que ce soit de sérieux, quoi que ce soit de concret pour régler les problèmes qu'ils passent leur temps à dénoncer. Mais j'ai envie de dire Éric Zemmour aussi. De penser à un instant qu'Éric Zemmour puisse être une solution pour ce pays, c'est quand même préoccupant. Et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont tentés par Éric Zemmour, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais
défendu la moindre idée concrète pour régler les problèmes. C'est quelqu'un qui n'a aucune prise de position sur d'autres sujets que les sujets d'identité et d'immigration, qui sont des sujets, mais qui ne sont pas les seuls sujets. Sur l'économie, que pense Éric Zemmour ? Personne ne le sait. Pense-t-il d'ailleurs quelque chose ? Enfin, tout ça est quand même au bout d'un moment extrêmement préoccupant, mais ça dit quelque chose aussi du vide que nous avons dans notre débat politique. Ça dit que cette manière de faire de la politique un peu original, il faut lui accorder, en utilisant son rôle de commentateur pour faire une audience importante tous les jours, etc. Ça répond aussi à un besoin de faire de la politique autrement. Moi, je pense qu'Éric Zemmour, il est une partie du problème et je veux juste attirer, par exemple, l'attention sur un point. Il faut lire ce que dit Zemmour sur les femmes. Ouais. Enfin, je veux dire, je ne suis pas certain que les gens qui sont aujourd'hui tentés par le vote Zemmour dans les enquêtes d'opinion savent ce que dit Éric Zemmour sur la place des femmes. C'est un discours totalement réactionnaire, que la féminisation de la société est une des raisons de l'impuissance publique. Il sous-entend clairement, il ne sous-entend pas, il dit que les femmes sont incapables d'assumer des responsabilités. Enfin, on est là, honnêtement, j'ai envie de dire de retour dans le 19e siècle, et encore, c'est un peu insultant pour le 19e siècle. Je suis, ça, on ne le sait pas.
Et donc, en même temps, il est crédité de 7 à 8% dans les sondages.
Oui, mais moi, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je pense qu'il y a, encore une fois, une envie de faire de la politique autrement, quelque chose de disruptif, de très transgressif. Mais derrière, je ne peux pas croire un instant qu'il y ait 7 à 8% des concitoyens qui pensent que c'est un candidat sérieux.
Oui, on appelle les gens quand même pour savoir pour qui vous allez
voter. Oui, mais attention. Lorsque j'étais engagé politiquement, et moi, je suis né à Toulon, j'ai grandi à Toulon, j'ai commencé à militer à Toulon. Les premières personnes avec lesquelles j'ai commencé à discuter de politique, c'est des gens qui avaient voté Front National. Donc, il y avait deux solutions. Soit je disais, c'est des dangereux fachos, excusez-moi du terme, des connards, je dois pas leur parler, soit j'essayais de faire l'effort et d'être dans le dialogue et d'essayer de comprendre comment des gens basculaient
donc
là-dedans, alors que même
la
ils avaient des origines quelquefois qui étaient plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Bon. Et j'en suis arrivé à cette conclusion qui nous mène à la discussion d'aujourd'hui. Les gens, à la limite, vous avez toute une partie de la population qui, à la limite, ne vote plus à gauche, ne vote plus à droite, mais vote pour un bulletin de vote qui leur donne le sentiment d'avoir du pouvoir. Et si, excusez-moi du terme, voter Zemmour, ça rime, ça permet de dire « je vous emmerde », eh bien, ils disent « je vote Zemmour ».
C'est comme voter
ils
blanc,
ont un pouvoir.
Mais avec une autre dimension.
Ils ont le pouvoir de vous dire «
Bruno
Millienne ».
Ils ne vont pas les voir derrière.
Oui, non, mais il ne faut pas
derrière
leur
demander
ça.
Ou derrière le visage, exactement,
mais
les écrits, etc. Ils s'en foutent.
Est-ce que je peux insulter l'ensemble de la classe politique ?
Est-ce que je peux déstabiliser, en gros, la société dans laquelle on vit ? Oui, je suis assez d'accord.
C'est un vote protestataire. C'est ce qu'on appelle un vote
protestataire. C'était Le Pen avant.
Donc, ça nous interroge, encore une fois, mais ça ne date pas d'hier, sur la façon dont on doit faire de la politique. Et j'en reviens à ce que je disais au début sur la promotion de la nuance et de la modération et d'expliquer les choses et les vérités, de ne pas les tronquer. Et ce qui n'est pas bien de le dire aussi, il faut qu'on retrouve cette espèce de transparence tranquille, quel que soit le parti politique, je dis bien, de transparence tranquille sur les actions qu'on peut mener, comment on les explique, celles qui ont échoué, reconnaître qu'elles ont échoué, les retravailler s'il y a un bout d'idée quand même, qui sert à quelque chose, mais on ne peut pas juste rester dans la punchline. Rester dans la punchline, c'est favoriser des Éric Zemmour, puisque finalement, on ne répond pas au fond du problème, et on n'explique pas aux gens. Et les gens ont l'impression que finalement, on se vaut tous. Non, on ne se vaut pas tous. Le programme d'Éric Zemmour, il est juste, s'il y en a un, il sera mortifère pour l'État. On le sait déjà. Donc, il faut expliquer les choses aux gens. Il faut les considérer comme des adversaires politiques. Il faut y aller, il faut ferrailler.
Merci à vous quatre. Merci aux députés Modem des Yvelines, Bruno Millienne. Merci à Othman Nasrou, vice-président de Libre, deuxième vice-président de la région Île-de-France. Merci à vous, Razi Ahmadi, ancien député PS, directeur général de News Tank City. Et merci à Amin El-Khatmi, toujours fidèle au poste, président du Printemps républicain.